Merci de nous retrouver pour ces carnets de Comaguerre qui redeviennent hebdomadaires à partir d'aujourd'hui. Bonjour à Sidi qui est resté fidèle au poste dans
Bonjour.
Son... Comment j'allais dire ? Non, c'est pas une bonne vapeur. Non, appelons ça comme ça. Bonjour à Roselyne aussi qui est là avec moi.
Bonjour.
Et puis on va essayer de reparler de cette actualité qui ne chôme pas. C'est-à-dire que si je peux caractériser ce début d'été 2020, c'est un été très agité, avec de fortes tensions nationales, internationales, des promesses de difficultés économiques, sociales considérables pour ce qui sera à peine une rentrée. On ne sait pas trop ce que ça va être, ça sera très, très atypique. Cette année 2020 reste extraordinaire au sens propre du terme et elle va le rester. Parmi les petits événements extraordinaires sur lesquels je vais m'arrêter, je vais vous parler de ce qui s'est décidé à Ankara il y a de ça quelques jours. Vous savez sans doute qu'en l'an de grâce, comme on dit 1453, l'Empire ottoman a établi son pouvoir donc, sur le territoire qu'il occupait à l'époque en renversant ce qui restait de l'Empire byzantin. Donc c'est la prise de Constantinople par le fameux sultan Mehmed II et par ses troupes des Turcs, qu'on appelle les Turcs Seldjoukides. Alors je m'arrête sur cet événement parce que c'est une date importante dans l'histoire du monde, pour deux raisons. D'abord parce que l'Empire byzantin, dont on parle fort peu dans nos universités, qui est un peu oublié, est le plus grand empire, le plus long empire de l'histoire de l'humanité. Alors, je mets un peu à part les empires chinois, parce qu'il y a eu plusieurs dynasties, c'est allé et venu, il y a eu des moments où ils étaient divisés. L'Empire byzantin a duré 1000 ans, ce qui est un beau gage de longévité, et il a fallu qu'il s'affaiblisse, qui a commencé dans les années 1200 et quelques, pour que finalement, les Turcs qui arrivaient de la lointaine et profonde Asie centrale, les Turcs Seldjoukides, progressivement progresse sur le plateau anatolien et un beau jour renverse, prenne Constantinople et renverse l'Empire byzantin. L'Empire byzantin était l'objet d'énormes convoitises, car il faut savoir qu'il était arrivé à un niveau, alors c'était un empire avec des esclaves, c'est pas du tout une démocratie, il n'y avait aucun exemple dans les institutions byzantines à relater, si ce n'est les régimes tels qu'ils existaient à cette époque de l'histoire, hein, dans le Moyen-Âge. Alors que nous, disons, je ne sais pas quoi, les Gaulois, les Celtes, enfin, ceux de nos ancêtres qui habitaient à l'extrémité occidentale du continent européen, étaient plutôt dans ce qu'on appelle le bas Moyen-Âge, ou le haut Moyen-Âge, étaient plutôt dans un état de sous-développement assez avancé. D'ailleurs, il y avait eu les invasions barbares, tout ça, donc ce n'était pas très très solide, ce n'était pas très en avance. Et par contre, autour de Constantinople, cette grande capitale de l'Empire byzantin, s'était rassemblée toute une série d'éléments de culture, d'artistes, etc. Et au point que Constantinople était considérée par nos rustres, qui étaient les ducs de Bourgogne, de ci, de ça et tout, comme l'endroit le plus extraordinaire de la planète, et suscitait beaucoup de convoitises. À telle enseigne que nos croisés, enfin je ne me range pas dans la catégorie des descendants des croisés, mais nos croisés, quand ils allaient en direction de Jérusalem, c'était le motif officiel, au passage, s'ils pouvaient un peu piller Constantinople, c'était une très très bonne occasion. Et puis à Constantinople, il y avait le luxe, la fourniture de tous les beaux tissus, belles toiles, belles peintures, etc. Enfin, c'était vraiment l'endroit le plus développé, le plus avancé de la culture européenne, disons. Je rappelle ça parce que c'est très très peu connu, et cet empire donc a marqué notre histoire européenne et eurasiatique d'une façon générale, puisque de fait de l'existence de cet empire byzantin, qui était un empire chrétien, orthodoxe je précise, où l'on parlait grec, les invasions arabes n'ont pas pu passer par là, c'est-à-dire que à partir de l'Égypte, donc les invasions arabes tentent de partir vers l'ouest, et en fait, elles ne peuvent pas passer par l'Empire byzantin, qui résiste. Et donc, c'est pour cette raison que les invasions arabes sont passées par la rive sud de la Méditerranée. Et donc ont envahi la Libye, la Tunisie, la Algérie, l'Irlande. Ils sont arrivés, on le sait, jusqu'à l'Espagne andalouse, et puis Poitiers, enfin, tout le monde connaît ça. Hein. Mais c'est parce qu'il y avait au milieu cet obstacle chrétien orthodoxe qui faisait que ben, ça ne pouvait pas passer par là. Ils ont eu envie, parce qu'eux aussi étaient tentés par les splendeurs de Constantinople. Mais ce n'était pas la bonne route. Donc tout ça, vous voyez, a marqué profondément non seulement l'histoire de l'époque, mais encore notre histoire d'aujourd'hui. Et cet empire ottoman, donc, qui a succédé à l'empire byzantin, s'est étendu. Alors, il a eu des tailles variables, comme l'empire byzantin, d'ailleurs, qui à certains moments était très large, à certains moments se rétrécissait. Enfin, en 1000 ans, on n'est pas absolument stable dans ses frontières. Hein. Et puis, il n'y avait pas d'unité ethnique. Il y avait cette unité de l'administration, de la langue grecque, qui était la langue officielle, de la religion orthodoxe, qui était la religion officielle, mais c'était tout. Autrement, il y avait des populations extrêmement diverses, qui pouvaient être des populations balkaniques, des populations syriennes, des populations... Donc, qui allait jusqu'à la Crimée, jusqu'à l'Ukraine, etc. Tout ça était un mélange ethnique très très important, mais il y avait une unité politique. Il s'en est suivi donc le remplacement, donc la chute de Constantinople en 1453 amène au remplacement de l'Empire byzantin par l'Empire ottoman, qui aura lui que 500 ans de vie, ce qui est pas mal non plus, mais un peu moins quand même que l'Empire byzantin. Et qu'il y a aussi aura des tailles variables, aura des périodes d'expansion maximale et puis des périodes de régression. Et puis vous savez que la guerre de 14-18 achèvera l'Empire ottoman, qui sera donc découpé en petits morceaux et d'où sortira la République turque quelques années après. Alors je parle de ça, pourquoi ? Parce que ces derniers jours, en reprenant la date exacte qui est un jour de juillet que je n'ai pas noté, enfin, autour du 20 juillet, qui est la date à laquelle donc l'Empire byzantin est tombé, donc dans laquelle l'Empire ottoman a été fondé par le fameux souverain Mehmet II, c'était en 1453, et l'ineffable Erdogan a décidé, c'est un geste symbolique, alors dont la portée politique est discutable et discutée, on verra ce que ça donnera pour la suite, mais il a décidé que la mosquée l'église Sainte-Sophie, que Kemal Atatürk avait transformé en musée. Donc c'était un hommage à la culture humaine et à l'art humain d'une façon générale, sans discrimination de race, de religion, etc. Et Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « je vais transformer l'église Sainte-Sophie en mosquée ». Ça redevient un haut lieu de l'islam, ce que ça n'a jamais été en fait, puisque les hauts lieux de l'islam, on sait, ils ne sont pas là. Ce faisant, Erdogan continue la politique qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il veut être le maître du monde musulman. Ce qui n'est pas une mince affaire, ce qui l'amène à aller envoyer ses troupes en Libye, à intervenir en Syrie, enfin tout ça est connu. Mais là, je m'arrête sur cet événement, donc qui n'aura peut-être pas beaucoup de conséquences, mais qui a un sens politique fort, c'est-à-dire qu'il s'affirme à nouveau, comme il l'a déjà fait en d'autres circonstances, comme le maître de l'islam mondial. C'est-à-dire que lui, à la tête de son pays de 80 millions d'habitants, voudrait ou croit pouvoir parler, je pense que c'est une illusion, au nom de plus d'un milliard de fidèles de cette religion. Ça fait partie de la façon de travailler d'Erdogan et de sa façon d'intervenir dans les affaires du siècle. Alors je dis, ça ira peut-être pas beaucoup plus loin que ça. Ça a constitué quand même une surprise, voire un choc pour certains, et puis ça continue à être le personnage qui veut être le maître de quelque chose et qui n'hésite pratiquement sur aucun moyen. La meilleure preuve en étant, on le sait, son intervention sur le sol libyen. Alors, à propos de sol libyen, je fais juste un petit crochet en passant par notre douce France, si j'ose dire, puisque vous savez que l'ineffable, alors à un autre niveau bien sûr, Bernard-Henri Lévy, est allé traîner ses guêtres ou ses chemises blanches, enfin, c'est la même chose, sur le sol libyen ces derniers jours, il y a 2-3 jours, je crois. Il a été éconduit. Mais il allait là pour montrer que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a différentes interprétations. Il ne s'est pas expliqué, il n'a pas trop eu le temps de s'expliquer, puisque d'une part, il a été refoulé. Il est arrivé donc du côté Misrata, donc du côté du gouvernement officiel de Tripoli. Il a été refoulé, donc on l'a remis dans son avion. Et il a suivi, en plus, il a subi, entre le moment où il est sorti de son avion et l'endroit où il voulait aller, des tirs. Bon, qui ont été inoffensifs, mais donc il n'était pas bien accueilli. Et alors après, bien sûr, chacun se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère. Alors on sait que Bernard-Henri Lévy aime bien aller dans des endroits où ça tire un peu. Alors il prend quand même un certain nombre de précautions, puisqu'il n'a jamais pris de balle perdue, là, apparemment, il a pris des petits risques. Bon, mais il avait sans doute quelque chose à faire, et il n'y va jamais pour rien. Alors vous savez qu'aussi, alors il va dans des endroits dangereux, c'est vrai, je ne le conteste pas, mais on l'a aussi surpris en train de se faire filmer dans des décors de théâtre avec des scènes de guérilla qui étaient dans un studio de la région parisienne. Ça c'est la deuxième version de Bernard-Henri Lévy, le grand show de Bernard-Henri Lévy. Bon. Toujours est-il que on se pose la question, et la question apparemment trouve sa réponse, enfin, jusqu'à présent c'est la seule qui semble tenir, c'est que vous savez que l'Élysée, donc Emmanuel Macron, avait plutôt tendance à favoriser le fameux maréchal Haftar, donc le gouvernement de Benghazi, contre le gouvernement de Tripoli, soutenu désormais par Erdogan, soutenu par les frères musulmans, soutenu par le Qatar. Enfin, là, on a une des sous-équipes de la politique sous étiquette islamiste. C'est très compliqué, la politique islamiste, en ce moment, mais on a une sous-équipe, donc l'équipe Turquie-Qatar, frères musulmans. Ça fait un ensemble. Et donc, la France, enfin, l'Élysée plutôt, ayant choisi d'appuyer plutôt le maréchal Haftar et son armée de libération nationale, et le dit maréchal Haftar ayant quelques ennuis militaires du fait de l'intervention massive et récente de l'armée turque, il s'agissait peut-être de tenter une démarche de médiation pour essayer d'éviter que ça dégénère trop, alors que ça a déjà pas mal dégénéré. Ça pouvait être ça. Toujours est-il que il est évident que Bernard-Henri Lévy, pas plus que quand c'est Sarkozy qui l'avait envoyé, n'est allé par hasard traîner ses guêtres et risquer peut-être quelque chose sur le sol libyen dans ces zones où l'on combat encore tous les jours. Je voulais rappeler ça parce que ça permet de souligner le rôle permanent depuis 2011, et même avant, je ne veux pas remonter à la bande d'Aouzou et à Hissène Habré, mais le rôle permanent d'intervention de la France dans la politique libyenne. Il faut avoir ça en tête, ça n'arrête pas. Alors pourquoi ça n'arrête pas? D'abord parce que la France est un pays et reste profondément un pays néocolonial et impérialiste. Et deuxièmement parce que l'immense territoire libyen, très peu peuplé, est une voie de pénétration sans rivale vers la profondeur du continent. Alors on passe par le Tchad, la République centrafricaine, etc. C'est beaucoup plus facile et ça peut être risqué aussi d'ailleurs, mais c'est beaucoup plus facile de traverser la Libye du sud au nord ou du nord au sud que de traverser l'Algérie, où c'est une affaire bien bien plus compliquée parce qu'il y a une vraie armée algérienne qui est organisée, qui ne se laisse pas faire, etc. Donc on a là l'espèce de point mou du continent africain où tout est possible et où tout continue à l'être, à preuve d'ailleurs, donc depuis 2011, une espèce de guerre permanente dont on ne voit pas l'issue et qui est de plus en plus internationalisée. C'était une façon d'en reparler sans en dire plus pour l'instant. Et ça permet au passage, puisque dans l'autre camp, donc j'ai donné le camp Tripoli, c'est donc Tripoli, avec la reconnaissance de l'ONU, pourquoi? Bon, on ne sait pas, avec donc les frères musulmans et le Qatar et la Turquie. Et de l'autre côté, l'Égypte, la France, apparemment la Russie aussi, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc on voit bien l'éclatement du monde politique musulman qui est total sur ces affaires-là. Et de l'autre côté, on a des soucis. Parce que le principal intéressé par ce qui se passe dans l'est de la Libye, c'est l'Égypte, et que l'Égypte a de gros soucis. Alors elle a d'abord des soucis là, à cet endroit-là, hein. Et puis elle a des soucis avec le Nil, parce que ça continue. C'est-à-dire qu'il y a eu une tentative, alors je vous ai parlé, je vous ai expliqué cette histoire du fameux barrage sur le Nil Bleu, donc qui est achevé en Éthiopie, dont apparemment le remplissage a commencé à se faire, et qui menace effectivement de priver d'eau et donc de pain la population égyptienne. Rappel, c'est 100 millions d'habitants, c'est pas tout à fait rien, et au passage, les 25 ou 30 millions de Soudanais qui sont sur le parcours. Alors l'Égypte est nécessairement tendue là-dessus. Et on a même entendu des propos dans la bouche des diplomates des deux côtés, du côté éthiopien, mais surtout du côté égyptien, disant de toute façon, on ne peut pas faire de compromis là-dessus. Nous avons besoin d'eau. Vous ne nous prendrez pas l'eau et on va se battre. C'était ça. Alors, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est une tentative de médiation de l'Union africaine via le président en exercice de l'Union africaine, donc le président sud-africain Ramaphosa. qui a essayé de dire ben, il faut négocier. Il faut négocier parce que de toute façon, ce problème du Nil bleu, il est pendant et il va durer pendant des siècles. Une fois que le barrage sera rempli, il faudra bien trouver des régimes de régulation des eaux. Il ne faudra pas donc assécher la totalité du territoire agricole égyptien, qui est tout petit et qui est totalement dépendant des eaux du Nil. Il faut trouver un arrangement international. Sachant que donc des deux côtés, on parlait de guerre. Et que les Égyptiens étaient, l'armée égyptienne était en état d'alerte. Alors l'armée éthiopienne n'est pas de taille, je pense, à résister longtemps à l'armée égyptienne, mais effectivement, l'Égypte se trouve donc impliquée dans la guerre de Libye, dans une guerre possible avec l'Éthiopie, avec des relations compliquées avec son voisin israélien, avec des relations difficiles avec l'Égypte, avec la Turquie. Pour des raisons liées à la politique, la géopolitique du gaz, enfin, tout ça fait que l'Égypte, quoi qu'on pense de son équipe dirigeante, est à un moment difficile de son histoire et qu'on a intérêt à trouver. Alors, je crois que ce n'est pas le rôle de la France parce qu'elle n'est pas capable de ça. Je pense que c'est un des soucis principaux de la Russie actuelle et de sa diplomatie qui, elle, est efficiente, d'essayer d'éviter qu'on en arrive aux armes et que donc on trouve une solution politique à cette question et du Nil et d'un gouvernement. Il faudrait bien qu'il y ait un jour, ça fait maintenant plus de près de 10 ans maintenant que la Libye est en petits morceaux, entre les mains des différentes tribus et des différentes milices, avec des armes qui viennent de tous les côtés, de l'argent qui vient de tous les côtés, des combattants djihadistes qui ont été formés pendant des années en Syrie et qui se remettent en activité sur ce sol-là. Donc on a là une espèce d'abcès de fixation gravissime. Sur fond, bien entendu, ça chacun le sait, d'économie pétrolière parfaitement rentable, avec un pétrole pas cher, d'excellente qualité, et très très proche de l'Europe, qui en manque et qui en est avide. Bon, tout ça est connu sur la question libyenne. Dans les foyers de tension, je vais rester dans les foyers de tension, il y en a un qui sera vif. Alors, je n'ai pas de nouvelles très très précises au moment où je vous parle, mais vous savez qu'il y a eu, donc dans les années suivant la disparition de l'URSS, un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, deux pays voisins, deux ex-républiques socialistes soviétiques, qui se sont affrontés pour des questions alors ethnico-religieuses, puisque les Arméniens sont des chrétiens avec une église autocéphale, c'est-à-dire une église qui ne dépend de personne, pour être simple. Les Azéris, dans leur majorité, sont des musulmans sunnites, donc il y avait ça, mais il y avait aussi des ambitions territoriales. Et ça s'était arrêté sur une espèce de victoire militaire de l'Arménie, qui avait réussi à contrôler une partie du territoire qui, officiellement, aujourd'hui, fait partie de la République d'Azerbaïdjan, qu'on appelle le Haut-Karabakh Nagorny. Et puis, par le fait, donc c'est ça, cette situation est stabilisée depuis, stabilisée, gelée, disons, depuis 15 ans, avec donc cette espèce d'enclave arménienne, mais que le gouvernement d'Erevan ne reconnaît pas, tout en disant c'est des amis, c'est des Arméniens, mais c'est pas nous qui les pilotons, c'est pas une annexe officielle de la République d'Arménie. Et puis, dans la partie sud de l'Azerbaïdjan, un petit morceau peuplé d'Azéris, qui n'a plus de communication avec son pays, qui s'appelle le Nakhitchevan. Alors il y a une petite communication avec la Turquie qui leur permet de ne pas être isolés du monde. Enfin, on a une situation là aussi assez compliquée, qui était stabilisée sans qu'on ait cherché vraiment une solution politique à ce bizarre découpage. Donc un morceau de l'Azerbaïdjan qui n'est pas lié à l'Azerbaïdjan, un morceau de l'Arménie qui n'est pas lié à l'Arménie qui est dans un autre pays, tout ça est assez tordu. Et un moment vient nécessairement, tant qu'on n'a pas réglé ce genre de situation explosive, où ça explose. Bon. C'est en train. C'est en train. Alors, je pense que là aussi, il y a beaucoup de messieurs bons offices qui disent calmez-vous. Il y a en même temps beaucoup d'armes sur cet endroit-là. Et puis, il y a des rivalités et des tensions géopolitiques, puisque les Azéris, tout en étant très voisins, enfin, il y a même une frontière commune avec la Fédération russe, ont des amitiés aux États-Unis et les Arméniens sont clairement militairement du côté de la Russie. Bon, tout ça ne facilite pas les choses. Alors on en reparlera certainement. Autre endroit de tension. Autre endroit de tension, vous avez peut-être entendu parler dans les actualités de manifestations en Bulgarie. En Bulgarie, des manifestations populaires, je mets ça entre les guillemets qu'il faut, enfin des gens dans la rue qui disent il faut que le Premier ministre s'en aille. Alors, c'est un classique, hein. Il est au pouvoir, il a un président de la République avec lequel il est en désaccord politique, mais ça c'est le résultat des élections, il s'appelle M. Borisov. Et donc il y a toute une agitation pour qu'il s'en aille. Alors bien entendu, dans ces cas-là, comme dans toutes les manifestations semblables, il y a des accusations de corruption, de népotisme. Enfin bon, on est dans un schéma, un scénario extraordinairement classique. Alors je vais donner le double fond de ce conflit bulgare. Monsieur Borisov, Premier ministre de la République bulgare, donc ex-République socialiste soviétique, est aujourd'hui Premier ministre d'une République membre de l'Union européenne. Et à ce titre, il doit plus ou moins se plier à la politique de l'Union européenne. Alors, il avait tenté d'éviter de se plier à cette politique en matière pétrolière et gazière, puisqu'il y a de ça quelques années, le projet donc monté par les pétroliers et les gaziers russes de traverser avec un tuyau sous-marin la mer Noire et d'arriver sur la côte bulgare, regardez sur la carte, enfin c'est un tracé en gros de nord-ouest à sud-est, avait été bloqué. L'Union européenne avait interdit à M. Borisov, on ne veut pas que vous receviez le gaz russe. Ce n'est pas notre politique, nous d'abord, on n'en veut pas. On ne veut pas de gaz russe, hein, on ne veut pas être dépendant d'eux. Enfin, vous connaissez tout ce discours et toute cette politique européenne anti-russe, et puis sanctions à l'appui, enfin, vous connaissez tout ça. Bon. Monsieur Borisov avait plié. Mais au fond, il avait quand même regretté qu'on l'ait obligé à se plier à cette discipline européenne, parce qu'il avait compris, c'était évidemment le calcul aussi des Russes, qu'une fois que le gaz arrivait chez lui, il y en avait une partie pour lui, il n'en a pas sur son territoire, et puis ensuite que le tuyau pouvait continuer sur la terre, et puis de là, passer chez les voisins, en Serbie, en Autriche, etc. Bon. En Hongrie, enfin, tout ce parcours connu. Et donc, il avait un petit regret. Il avait un petit regret, et il a donc profité du fait que le fameux tuyau donc, qui devait passer sous la mer Noire et qui devait aboutir à la côte bulgare, en fait, a été dérouté, les Russes ont changé leur fusil d'épaule, se sont mis d'accord avec la Turquie, et le tuyau est descendu un peu plus au sud, est arrivé en Turquie. Bon, ça c'est fait, ça marche, c'est ouvert, il n'y a pas de souci depuis le 1er janvier de cette année. Et puis, une fois que ce gaz et ce tuyau sont arrivés en Turquie, il se trouve qu'il existait un vieux tuyau qui marchait depuis la Turquie jusqu'à la Bulgarie. Et donc Borisov a dit, ben dites, puisqu'il y a du gaz là qui arrive en Turquie, pourquoi pas m'en envoyer un petit peu ? Bon. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire. C'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire, c'est maintenant, c'est en place, et donc l'Union européenne est folle de rage. C'est-à-dire qu'en fait, il a obéi une fois, mais la deuxième fois, il a désobéi. Il a désobéi parce qu'il s'est dit, moi j'aurai du gaz et puis en plus je serai le point de passage pour les clients d'après. Hein, je veux dire, donc Hongrie, Serbie, tout ça, tous les Balkans. Bon. Et donc, alors je ne vous ai rien dit, je vous ai simplement dit qu'il y avait des manifestations populaires contre M. Borisov, bon, c'est tout. Alors, comprenne qui pourra, hein. C'est tout à fait clair, hein. On est tout à fait dans le cadre de ces révolutions colorées avec les mêmes slogans, les mêmes pratiques, etc. Il faut faire tomber M. Borisov, et en plus l'avantage est qu'il a au-dessus de lui, mais avec peu de pouvoir, un président de la République qui est en désaccord complet, donc qui aide un peu à mettre de l'huile sur ce feu-là. Donc on va voir ce qui va se passer, mais là, clairement, les Russes et les Turcs ont marqué un point, et M. Borisov s'est dit après tout, et puis, honnêtement, quand on regarde de près l'Union européenne, on se dit qu'obéir à l'Union européenne, c'est un drôle de calcul dans l'état où elle est, cette Union européenne. Mais voilà, il y a des petites difficultés de terrain, il y a quelquefois des cailloux dans la chaussure de M. Borisov. Ça se traduit en manifestation populaire, en... Ça, on n'a pas encore appelé ça une révolution de couleurs, mais enfin, quand même, on aimerait bien que ça prenne ce tour-là. On en reparlera sûrement. Je reste dans cette zone qui est décidément extraordinairement troublée pour vous parler des relations entre la Grèce et la Turquie. Alors, je vais parler de la Turquie. Alors, vous imaginez quand on est en Grèce, qu'on soit un gouvernement de droite ou de gauche comme Tsipras ou autre chose, bon, et qu'on voit la Turquie à travers l'affaire de la mosquée de Sainte-Sophie, à travers toute une série d'interventions, l'intervention en Libye et tout, on voit la Turquie prendre des positions extrêmes, ou très, très belliqueuses et très désordonnées, on s'inquiète. Et on a beaucoup parlé ces dernières semaines de possibilités. Alors il y a eu des esquisses, c'est-à-dire que des avions de chasse se frôlent, on fait survoler des bateaux de guerre par des avions de chasse, on fait des petits mouvements comme ça pour montrer qu'on n'est pas content. Et donc il y a beaucoup d'observateurs qui ont commencé à dire « on va vers une guerre Grèce-Turquie ». Rien que ça. Parce que là aussi, il y a des enjeux énergétiques, puisqu'il faut savoir que tous ces enjeux gaziers, là je parlais du gaz russe qui vient de loin, mais on sait aujourd'hui, c'est acquis et ça fonctionne, qu'il y a dans les fonds et sous-sols de la mer Méditerranée orientale, donc par là-bas, du gaz en grande quantité. Et selon qui va faire des trous et selon l'endroit où on fait des trous, ce gaz peut appartenir à la Grèce ou à la Turquie, ou à Chypre, ou au Liban, ou à la Syrie, etc. Alors vous imaginez, hein, dans ce cadre de tension extrême, où tout le monde veut être le patron de tout, et où personne ne voudrait au moins ne pas être maître chez lui, tout ça fait monter très très vite la température. Et donc c'est ça les relations difficiles entre la Grèce et la Turquie. Alors le fait que c'est presque risible, le fait que la Grèce et la Turquie soient membres de l'OTAN, donc de la même alliance militaire, ne fait aucun effet. C'est-à-dire, cette alliance ne sert à rien, ne sert à rien, si ce n'est à acheter de l'armement aux États-Unis, mais c'est à peu près tout ça. Là, il n'y a pas de. Alors, peut-être dans les coulisses, on leur dit calmez-vous, c'est pas impossible, mais là, sur le terrain, c'est quand même eux, c'est quand même les avions des uns et des autres qui se croisent, qui se frôlent, les bateaux de guerre qui sont à s'observer. Enfin, on est toujours à la limite, tous les jours en ce moment, de l'incident naval ou l'incident aérien. Avec lui, ces énormes enjeux économiques, avec les histoires de gaz, de tuyaux, etc. Hein? Alors, parce que ce que le contrôle des espaces maritimes, des espaces sous-marins, vaut pour d'abord l'extraction du gaz, et puis vaut pour le passage des gazoducs sous-marins. C'est-à-dire, on peut passer un gazoduc si on est chez soi. On ne va pas passer un gazoduc sous les fonds d'un autre. Bon, tout ça est instable, et tout ça est d'autant plus instable que, en matière de législation internationale sur les fonds sous-marins, il y a des choix que les États ne peuvent pas faire. C'est-à-dire, en application de la fameuse convention de Montego Bay, la convention donc sur l'appropriation, disons, des océans, il y a des limites très très claires, ce qu'on appelle les eaux territoriales ou là c'est incontestable. Et puis il y a ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui peut être étendue jusqu'à 200 000 marins, mais qui ne peut être étendue que si géologiquement on peut démontrer qu'il y a en fait une espèce de prolongation d'un marchepied du continent vers les grandes profondeurs marines. Et un État ne peut pas décider de dire, moi je vais m'étendre ici et là et tout, sans un arbitrage de l'ONU. Ce qu'a fait Erdogan en signant un accord avec le gouvernement de Tripoli en Libye, c'est qu'il a dit, moi ma zone économique exclusive, elle va jusqu'à la zone libyenne, point la ligne, et je signe. Seulement le problème, c'est qu'il n'a pas d'aval international. C'est-à-dire, il a violé la loi internationale sciemment. Fait accompli. Les Grecs, voyant venir ça, disent, il va venir nous prendre tout ce qu'on a autour de nos îles, autour de Rhodes, autour de Chypre, etc. Donc la tension est extrême, et vous voyez qu'il y a des enjeux qui ne sont pas simplement de fierté nationale, il y a des enjeux économiques de très grande importance. Le seul élément rassurant dans cette situation tendue entre la Grèce et la Turquie, c'est que les deux partis communistes, j'ai relevé ça, donc il y a un communiqué commun du Parti communiste grec et du Parti communiste turc, en disant il y en a assez de ce genre de comédie, les peuples ne veulent pas la guerre, on veut pouvoir tous manger à notre faim, être tranquille et libre dans nos pays, et pas autre chose. Mais c'est positions-là sont pas très nombreuses, sont peu connues, c'est pour ça que j'insiste un petit peu. Il y a encore des gens qui gardent la conscience raisonnable de la situation et qui voudraient que ça ne dégénère pas. Alors, je prends pas de pari, je ne suis pas sûr qu'on va aller vers des échanges de tirs ou vers des affrontements militaires entre la Grèce et la Turquie, mais c'est très limite et la façon dont travaille Erdogan montre qu'on ne sait jamais exactement quand est-ce et quoi l'arrête. Peut-être la Russie, peut-être, on ne sait pas. Mais il est parti vraiment sur une trajectoire de conflit généralisé et puis se dit de domination du monde musulman dans son ensemble. Voilà pour un petit peu d'actualité périphérique. Et bien, je vous ai parlé de la France et je voulais m'arrêter un tout petit peu, même s'il ne faut pas y accorder beaucoup trop de poids et de prix, à l'intervention de M. Emmanuel Macron le 13 juillet à l'école de guerre. Monsieur Emmanuel Macron alors, a fait un discours aux armées à l'hôtel de Brienne, donc c'est le lieu où se tient l'école de guerre. Alors il a fait ça la veille du 14 juillet pour dire ben, demain il n'y aura pas le grand défilé populaire, enfin le grand défilé mais devant les foules en délire sur les Champs-Élysées, mais malgré tout, je veux montrer que je m'intéresse à vous et que, j'allais dire, presque, oh, c'est presque il l'a dit, je vous aime.
Il y passe son temps.
Oui. Alors, j'ai là, c'est les 2 pages de discours. Bon, alors, il fait tout ce qu'il faut pour être bien vu. D'abord, il rend un hommage à tous les soldats morts. Alors, vous savez que la France n'est pas en guerre, mais il y a quand même des soldats qui meurent régulièrement, ici et là, à différents endroits. Donc, il cite les noms de tous les récents décédés. Il montre, ça. Enfin, il refait, je crois que c'est Alfred de Musset, grandeur et servitude militaire. Hein, c'est à peu près le même discours. Et il ajoute... Vous êtes au cœur de nos préoccupations, et il ajoute, je vais donner beaucoup d'argent à votre activité, et je m'engage à ce que ce budget-là soit maintenu, quoi qu'il arrive. Alors, quand vous lisez ça, moi, ce n'est pas mon cas, quand vous lisez ça, et que vous êtes, par exemple, au hasard, infirmière à la Salpêtrière à Paris, ou à l'hôpital Nord à Marseille, ah, vous dites, ah, mais eux, ils sont sûrs d'avoir leur crédit, eux, ils sont sûrs d'avoir leur budget. Et c'est un programme pluriannuel, c'est-à-dire que ça va bien au-delà même de la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et eux, on vient leur vraiment faire plaisir. On dit, quel hommage, vous êtes grand, vous êtes digne de ci et ça, enfin des plus grands moments de l'histoire française. Et on annonce même, et il a confirmé, qu'il y avait des crédits pour des équipements nouveaux, pour l'aviation de chasse, des sous-marins nouveaux, enfin tout ce qu'il faut. Il n'a pas reparlé du deuxième porte-avions, je me suis demandé s'il n'avait pas eu un trou de mémoire, mais il a donc dit tout ça, et il dit, et on le conçoit, puisque vu l'intervention, l'importance et la multiplicité de ces interventions envers les militaires, je me tiens informé très régulièrement de ce que vous êtes. C'est-à-dire que M. Macron se considère, et c'est ça qu'il faut que nous, citoyens français, ayons bien dans la tête, il est d'abord et avant tout le chef des armées. C'est ça sa priorité, c'est ça qui lui importe, et le reste, c'est l'intendance, ça suivra ou ça ne suivra pas, et s'ils ne sont pas contents, tant pis. Mais il a même ajouté, ça je ne relis pas le paragraphe, mais que en matière de retraite, alors vous savez qu'il est absolument abrupt sur la question des retraites puisqu'il veut modifier le système, il leur a quand même glissé dans le tuyau de l'oreille puisqu'il était là pour leur faire plaisir, vous aurez un traitement particulier, hein, puisque vous avez quand même des contraintes spéciales, etc. Et donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas massacré par le système des retraites nouveaux. Il a dit ça à personne d'autre. C'est le seul corps de métier, c'est la seule profession française qui a eu droit à cette bienveillance. Hein. Je ferai attention à votre système de retraite. Pour les autres, je les massacre, ça n'a pas d'importance. Voilà ce que je voulais dire. Alors, peu à chose. Et puis si, la dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il parle sans arrêt, et ça, je me demande comment les citoyens français normalement constitués peuvent comprendre ça, c'est-à-dire, vous défendez la France et l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire défendre l'Europe ? Alors, c'est défendre les Grecs contre les Turcs, c'est défendre le Borisov contre les Roumains, on ne sait pas. Hein. Et il est fidèle à lui-même, et il y a beaucoup d'observateurs, je vais en reparler à propos des questions économiques, qui disent en fait, M. Macron ne l'a jamais dit, il est en train de vouloir une autre constitution de la France pour en faire une république fédérale. Ça n'a jamais été dans son programme électoral, mais petite touche par petite touche, discours après discours, il veut transformer la structure de la République française, qui est une et indivisible, en un système ressemblant au système allemand, et puis noyer ça dans une espèce de fédération européenne, où la France ne serait plus qu'une espèce de coordination de régions, mais qui n'aurait pas plus de poids que d'autres. Ça, alors, c'est très intéressant parce qu'on est au bout de 3 ans maintenant d'exercice de son pouvoir et chaque petite touche qu'il donne sur l'Europe, il a déjà dit le grand discours de la Sorbonne, d'autres discours sur les questions militaires, c'est l'Europe. Donc, aux soldats qui va, il y en a encore un qui est mort au Mali là, il y a quelques jours, vous êtes mort pour l'Europe. Ah, ben il est content, le soldat en question, et sa famille aussi. Ils sont morts pour l'Europe, mais on ne leur a pas expliqué pourquoi. Et les Européens, d'ailleurs, la majorité ne doivent pas le savoir non plus. J'imagine que le citoyen autrichien ou slovène, qu'est-ce que c'est qu'ils sont allés faire là-bas? Bon, mais ça fait partie de l'habillage, et ça fait partie, je pèse mes mots, M. Macron, dans cette ligne politique, est en train simplement de commencer à détruire la République française telle que nous la connaissons et telle que nous l'avons approuvée dans les textes constitutionnels. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, lui, c'est petite touche par petite touche, mais à prendre les discours les uns après les autres depuis 3 ans maintenant, la ligne est parfaitement claire. M. Macron est un fédéraliste. Bon, ça, on ne vous l'a pas dit et on ne vous a pas fait voter là-dessus et il n'est pas prévu de faire un référendum sur cette question-là. Simplement, on vous le fera avaler petit à petit si vous ne vous réveillez pas. c'est intéressant de le rappeler. Alors, si vous vous réveillez, ben, alors on va parler de l'Europe et de M. Macron sous une autre rubrique. Alors, vous avez vu, vous avez su que, alors je fais suite aux premiers accords, je crois que c'était au mois de juin, M. Macron rencontre Mme Merkel et ils annoncent un plan de sauvetage des économies européennes, avec des centaines de milliards d'euros qui allaient être déversés sous diverses formes, subventions, prêts, etc. Bon. Tout ça, c'était les annonces. Et puis, on est passé au vif du sujet, parce qu'en fait, l'Europe, il y a quand même des structures qui décident, il y a des réunions de premiers ministres, de chefs de gouvernement, etc. Donc, il a fallu que les annonces tonitruantes de M. Macron à l'issue de sa première rencontre avec Mme Merkel soient concrétisées par une réunion des ministres compétents des affaires européennes ou économiques des différents 27. Bon, il se trouve que, et c'est assez notoire, la réunion pour essayer de mettre au point concrètement ce plan, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ces 750 milliards d'euros, à qui on les donne, comment, sous quelles conditions, est-ce que c'est des prêts, est-ce que c'est des subventions, il a fallu pas moins de 4 jours entiers, nuit et jour, de discussion pour arriver à une espèce d'accord bancal entre les diplomates et ministres qui étaient là. Alors, c'est vrai que dans l'histoire de l'Union européenne, il y a eu des moments difficiles comme ça, mais là, ça a été particulièrement difficile. Et puis, ça a été tellement difficile qu'on en est sorti sur ce qu'on appelait à l'époque des motions nègres-blancs, c'est-à-dire un communiqué où chacun trouve ce qu'il avait envie de lire, hein, mais où ce n'est pas absolument clair. On ne sait pas ce qui sera prêté, on ne sait pas ce qui sera donné, on ne sait pas comment se fera le remboursement. On oublie de dire, j'insiste, parce que les règles écrites de l'Union européenne font que si quelqu'un ne rembourse pas les prêts, je veux dire que ce soit une collectivité territoriale, une mairie, une entreprise et tout, c'est l'État dont elle est membre qui devra payer. On oublie de dire aussi, je donne quelques chiffres, que si sur ces 750 et quelques milliards, il y a une quarantaine de milliards qui devraient arriver dans les escarcelles de la République française. Mais je rappelle que la République française paye des cotisations à l'Union européenne, tous les membres de l'Union européenne payent des cotisations, que ces cotisations s'élèvent à 66 milliards par an. Donc on a gagné 40 milliards, mais il y a quand même 66 milliards à sortir, donc le gain est relatif. Et on a appris aussi, alors là c'est la cerise sur le gâteau, j'allais dire, que les frugaux, alors vous allez dire qui c'est les frugaux, alors, il y a des gens qui mangent moins que d'autres, il y a des gens qui font un régime sévère, ça les frugaux, alors c'est les Danois, paraît-il, sont frugaux, il y a, je crois, les Néerlandais qui sont frugaux, les Britanniques, on n'en parle plus, ils ne sont plus dans le jeu, je crois qu'il y a encore les Suédois et les Finlandais, voilà, c'est les frugaux. Alors c'est ceux qui font des économies, ne dépensent pas trop, sont bien sages et tout, trouvent que les Français, les Italiens, les Espagnols sont des gaspilleurs, des gens qui jettent l'argent par les fenêtres. Par exemple, on peut fabriquer un porte-avions quand on n'en a pas besoin. Ça s'appelle jeter de l'argent par les fenêtres. Bon, mais ce n'est pas le cas. Et donc, les frugaux ont demandé à avoir une baisse de leur cotisation à l'Union européenne, parce qu'ils sont frugaux. Alors, ils vont l'être encore plus, puisqu'ils vont dépenser moins pour l'Union européenne. Bravo, bravo encore. Alors, il y a cet accord qui n'en est pas un, cet accord bâclé, bizarre et déséquilibré, cache beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, il met en cause les règles même écrites de l'Union européenne, puisque formellement, dans les traités tels qu'ils existent aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas le droit de faire des emprunts. Et donc là, bon, ben, il va y avoir 390 milliards d'euros empruntés, en violation des lois, c'est tout. Bon, tout bêtement, c'est pas grave, on n'en est pas à ça près. Il fallait annoncer que l'Europe allait bien et qu'elle nous allait nous distribuer de l'argent en abondance. Alors, un dernier mot sur un de nos frugaux, parce que là, j'ai presque un chien de ma chienne, j'aimerais bien que je ne sois pas fiscaliste, sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas sont les frugaux, et donc c'est parmi les plus méchants, ces gaspilleurs de l'Europe du Sud.
Comment tu écris ça
Les frugaux, comme frugal. Frugal avec un frugal des frugaux. Voilà, un frugal des frugaux. Voilà. Alors les Pays-Bas, oui, je leur réserve un chien de ma chienne, parce que vous savez, alors ça c'est aussi une des bizarreries de l'Union européenne, il n'y a pas de politique fiscale européenne. Chacun fait sa cuisine fiscale à lui, quitte à compliquer la vie du voisin d'à côté. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés, alors si vous trouvez n'importe quel chef d'entreprise, petit ou gros, il va vous dire que l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, donc il a gagné de l'argent, on ne le vole pas, hein, l'impôt sur les bénéfices, il va être trop élevé. Et donc il y a aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne, une concurrence sur le taux d'imposition sur les bénéfices, dont le grand gagnant sont les Pays-Bas. C'est là où l'impôt sur les bénéfices est le plus petit. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tout simplement, vous avez une grosse boîte en France qui va faire qui vit bien, qui gagne bien sa vie, qui dit « je vais payer 35% d'impôt sur le bénéfice que je réalise ». Mais si je fais une société mère dont le siège est à La Haye, en Rotterdam, là, c'est que 13%. J'économise 20% sur mes bénéfices. Tout le monde déménage. Hein. Merci, les frugaux. Hein. C'est facile d'être frugal dans ce cas-là. Alors ils disent, nous, on a de l'argent, les caisses sont pleines. Hein. Même si c'est que 13%, comme toutes les boîtes viennent mettre leur siège aux Pays-Bas, hein, on a tout ça qui rentre. Hein. C'est autant que les autres n'ont pas. Voilà. Ça, c'est les petits côtés de l'Union européenne. Hein. Et des bizarreries de la dite Union. Ça méritait d'être dit. Alors, c'était tellement bizarre cet accord, ou tellement bancal, que le Parlement européen, quand il a eu la copie sous les yeux, a dit « Nous, on ne comprend pas trop, revoyez la copie ». Donc, on en est là. Alors, si vous croyez que la France va toucher 40 milliards d'euros, il va y avoir 750 milliards de distribués généreusement sur toute l'Europe, ne croyez pas que c'est pour tout de suite. Le Parlement européen ne trouve pas ça très, très catholique, si j'ose dire. L'accord entre les États est fragile. Le communiqué est un peu tordu. C'est très probable que cet argent arrivera quelque part dans les caisses, peut-être au début de l'année prochaine ou un peu plus tard. N'attendez pas, si vous attendiez de l'argent, aucun d'entre nous n'attend de l'argent de l'Union européenne, mais si on vous a dit que ça allait venir, ça ne sera pas tout de suite et ça ne sera peut-être pas exactement ce que vous pensez. Bon, parce que, à force de violer des textes, de mettre d'accord les gens à l'usure au bout de 4 nuits d'insomnie en disant on est d'accord entre les frugaux et les moins frugaux, c'est pas très très brillant, le point d'arrivée. Donc l'Union européenne n'est pas en grande forme. Ce que je vous disais sur Borisov et la Bulgarie va un peu dans le même sens. Voilà, on en est là, et puis, alors, on va faire une petite pause en appelant, Sylvie va le faire, on va appeler un monsieur qui est à Paris et qui va nous parler d'une manifestation qu'il organise aujourd'hui, et il va nous en parler plus longuement si on l'a au téléphone, j'espère qu'on va pouvoir l'avoir. Il s'agit donc d'un personnage qui est un franco-syrien de nationalité que on a eu l'occasion de rencontrer, que Comaguer a eu l'occasion de rencontrer à Marseille, et qui se trouve à Paris et qui est en train de préparer pour tout à l'heure une manifestation à Paris au sujet de la Syrie. Je ne sais pas si on va la voir ou s'il est occupé à autre chose. C'est un monsieur très très actif, très engagé. Je ne sais pas si je l'avais prévenu qu'on allait la voir depuis en direct pendant l'émission. Je ne sais pas si ça sera le cas. Là, il a l'air d'avoir des difficultés à la voir. Non, c'est bon. Bonjour Hassan Aznam, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien.
Ah, très bien, très content de vous avoir en ligne. Donc j'ai annoncé à nos auditeurs que vous alliez leur présenter la manifestation de ce soir à Paris. Je vous donne la parole.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous salue ainsi que les auditeurs qui écoutent votre radio.
Merci.
Tout simplement aujourd'hui... À 18h, on va se trouver avec nos amis à Trocadéro à Paris,
oui.
Devant le mémorial des droits de l'homme,
oui.
Pour protester, pour dire non, pour dire halte à cette politique agressive, à cette politique de terroriste de président turc Erdogan,
oui.
Qui est en train de menacer la paix dans le monde.
Oui.
Quand je dis ça, c'est pas des mots, c'est des actes sur le terrain, car je suis au courant parfaitement. Des centaines et des centaines des appareils de guerre, des chars, des avions, qui a envoyé sur la terre libyen, en Libye,
oui.
Pour menacer réellement la paix dans cette partie du monde,
oui.
Contre l'Égypte, contre le peuple libyen, contre les intérêts de la France là-bas, surtout en train de signer des accords avec pas mal de pays africains. Donc aujourd'hui, si on va pas avoir le courage de dire non à Erdogan, et va continuer à menacer et passer à l'acte pour mettre ses paroles à l'acte, bien entendu, et menacer la paix dans le monde. Donc j'espère que les gens qui nous écoutent, il y a encore 2-3 heures devant nous, de venir nous rejoindre à Trocadéro, devant les mémorials des droits de l'homme, de 18h à 19h, aujourd'hui, mardi 27 juillet 2020.
Très bien. Donc, on relève. On espère que vous serez entendu. Il faudra sans doute que d'autres initiatives, c'est bien d'avoir pris cette initiative tout de suite, et puis reproduire ça, parce qu'on pense que, on en a parlé en début d'émission, l'activisme dangereux de M. Erdogan n'a pas commencé ces jours-ci, et donc il mérite d'être suivi de très très près.
Et bien entendu, je voudrais signaler quand même la présence du député français, M. Jean Lassalle,
oui,
qui sera parmi nous à Trocadéro.
Très bien, très bien.
Mardi 28 juillet, hein, pas 27.
28. Oui, oui, aujourd'hui. Donc aujourd'hui.
28, pardon, absolument. Voilà, oui. Voilà.
Bon, vous n'avez pas réussi à avoir d'autres députés, ou alors ils sont à la campagne.
Merci beaucoup à vous, mon cher ami, et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, donc cette annonce d'une manifestation, bon, un peu improvisée, ça a été décidé, moi je l'ai su donc hier ou avant-hier, mais c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Alors je ne sais pas si Bernard-Henri Lévy travaille avec M. Hassan Atnap, mais il est important de calmer les ardeurs belliqueuses de M. Erdogan, et surtout en rappelant qu'il a une très très forte armée, très équipée, que son pays malgré tout traverse une crise économique gravissime, mais que ça n'empêche pas, et je reprends ce que je disais pour Macron, c'est-à-dire on peut dire c'est la priorité l'armée, et pour Erdogan la priorité c'est son armée et ses services secrets, et le reste, bon, la population turque elle mange ou elle mange pas tous les jours à sa faim, c'est peut-être pas le premier de ses soucis, c'est même certainement pas le premier de ses soucis. Alors en plus si elle est kurde là, elle doit crever de faim autant que possible. On en est là. On en reparlera. Alors à propos de, ben, je reste toujours dans la guerre, on va commémorer, parce qu'on célèbre pas ça, les bombardements, le 75e anniversaire des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Et à ce propos, donc j'ai entre les mains, alors il existe au Japon un conseil contre les bombes A et H, qui s'appelle en japonais le Senkuikyo, qui se réunit tous les ans et qui a une activité régulière anti-nucléaire et qui a rédigé un communiqué pour expliquer qu'il est extrêmement inquiet, ce comité donc anti-nucléaire japonais, créé après les bombardements que vous savez, parce qu'il s'inquiète de la politique du président Trump. La politique du président Trump qui consiste d'une part à avoir d'énormes budgets militaires et surtout à avoir décidé de donner beaucoup d'argent pour moderniser l'arme nucléaire, c'est-à-dire avec l'intention très claire et très affirmée d'avoir des armes nucléaires que les autres n'auraient pas. C'est-à-dire la volonté de Trump de se retrouver dans la position en gros de Truman à la fin du mois d'août 1945, j'ai la bombe atomique, personne d'autre ne l'a, je peux terroriser le monde entier. C'est ça l'idée. Alors il en est un peu loin parce qu'ils ont pris un peu de retard quand même, mais c'est cette idée-là, et donc c'est là-dessus que ce conseil donc de Senkuikyo japonais a souligné que la situation était grave, et qu'il faisait, enfin tous les efforts devaient être faits par tout ce qui sont les pacifistes, et l'humanité exige, et on le sait, puisqu'il y a de plus en plus de pays, il y a plus d'une centaine de pays maintenant qui ont décidé de signer le traité pour l'interdiction des armes nucléaires, donc ce n'est pas simplement un comité de citoyens isolés, c'est un mouvement général dans la population mondiale contre ces armes nucléaires. Et ces armes nucléaires, on les retrouve en matière économique, mais d'une façon un peu paradoxale, mais je vais m'arrêter là-dessus. Vous avez sans doute entendu parler de l'expression « l'hiver nucléaire », ou peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que l'hiver nucléaire ? Ben, donc, dans un bombardement atomique, pour ce qu'on en sait, c'est-à-dire pour ce qu'on en sait, on a vu ce que c'était Hiroshima et Nagasaki, on sait qu'il y a aujourd'hui des bombes qui ont la capacité 1000 fois supérieure à Hiroshima et Nagasaki. 1000 fois, je dis bien 1000 fois. Ceci étant, même avec plusieurs de ces bombes-là larguées sur un territoire, on ne tuerait pas tout le monde le premier jour. On tuerait énormément de gens, des 10, des 100, des 200 millions, mais pas tout le monde. On ne peut pas tuer 7 milliards d'hommes d'un seul coup. Mais le concept d'hiver nucléaire, c'est le suivant. C'est qu'une fois que vous avez jeté des bombes atomiques comme ça, de cette taille-là, de cette puissance, et si vous en jetez un certain nombre, vous engendrez un énorme nuage de poussière qui va recouvrir totalement la planète en quelques heures ou en quelques jours. Et vous vous retrouvez, et c'est là que je veux en venir, vous vous retrouvez exactement dans la situation des dinosaures. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, vous savez que pourquoi les dinosaures ont-ils disparu ? Ben, c'est très très simple. Il y a eu, donc il y a de ça 65 millions d'années à peu près, un météorite de grosse taille qui a percuté la Terre. Ça peut arriver. Ça arrive de temps en temps, bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, à part dans les films de fiction américains, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Bon. À ce moment-là, ce météorite n'a pas créé, ce n'était pas une explosion nucléaire, mais il a créé un énorme nuage de poussière. Cet énorme nuage de poussière s'est répandu sur la totalité de la planète progressivement. Et donc, petit à petit, le soleil arrive en moins. Tout ce qui était herbe, plantes et tout a commencé à disparaître. Ou au moins, ça trouve, il n'est plus resté que des mousses, des lichens et tout. Et les dinosaures, alors vous imaginez la taille, qui broutaient comme des fous, qui mangeaient beaucoup, n'avaient plus rien. Et donc la disparition des dinosaures, elle est liée à ce qu'on appelle, métaphoriquement, l'hiver nucléaire. Il faut savoir donc qu'un bombardement intense avec des bombages produirait un hiver nucléaire. Et donc on aurait exactement les mêmes conséquences. On pourrait inventer des souterrains avec des cultures, machin, pour un certain nombre de privilégiés. On ne mettra pas à l'abri 7 milliards de personnes dans un souterrain. Ce n'est pas possible. Donc il y aura l'hiver nucléaire. Et donc la mort nucléaire, c'est d'une part le bombardement pour une petite partie de la population, et puis ensuite la Terre qui devient simplement invivable pour les autres. Sauf les quelques privilégiés qui auront un abri. Oui, voilà. Bon, n'en parle plus. Alors, je vais en parler parce que un économiste des États-Unis a dit, je vais vous donner une comparaison. Le Covid, c'est la prélude à l'hiver nucléaire économique. Il a dit, en fait, bon, le Covid serait, dans cette métaphore que je poursuis, le Covid serait la bombe. Mais en fait, les effets de la bombe sont tels qu'en fait, il y en a après pour tout le monde, même ceux qui ne l'ont pas reçu sur la tête. Et c'est ça son idée, c'est de dire, vous n'avez encore rien vu, la bombe, elle a explosé, ça, on a compris, on fait les comptes, il y a tant de morts, il y a ci, il y a ça. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas beaucoup, c'est vrai que heureusement, ce virus n'est pas dévastateur. Il ne tue pas tous les gens qui... Bon, ça c'est vrai, mais en même temps, il continue quand même à se propager. Et puis, ses effets sur l'économie, eux, sont dévastateurs. C'est ça, l'hiver nucléaire économique, il est en cours. Il est en cours. On n'en a pas mesuré totalement encore, mais ça se voit derrière les chiffres du chômage, derrière les chiffres du chômage aux États-Unis en particulier, derrière toute une série de données, c'est tout à fait clair. Je vais vous donner un exemple, mais il y en a tous les jours des quantités. La société Daimler. Daimler, pour vous, enfin, pour les Français, c'est Mercedes. C'est le principal constructeur de voitures automobiles. Ben, ils vont supprimer 30 000 emplois. Et quand on enlève 30 000 emplois dans l'industrie automobile, on en enlève des dizaines de milliers chez les sous-traitants, chez les fournisseurs, etc. etc. Bon. Ça, c'est un cas parmi d'autres. Hein. Mais il y en aura comme ça des quantités. Il y en a un autre qui va suivre, qui est la société, ça a déjà commencé, la société Tesla. Alors Tesla, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. C'est le premier fabricant de voitures électriques états-unien qui a fait sa fortune là-dessus. Et lui, ben effectivement, il y a moins de ventes, parce que, alors, cet hiver nucléaire, qu'est-ce qu'il fait dans la tête des gens? Dans la tête des gens, il fait que l'insécurité économique, financière et matérielle se propage dans la totalité de la population. C'est ça, l'hiver nucléaire économique. Vous ne savez pas si demain, vous, votre famille, vos enfants auront un boulot. Bon, donc, ben, si vous avez un petit peu d'argent, vous allez de pas trop le dépenser, de faire attention, en disant, on ne sait jamais, les mauvais jours sont devant nous, on ne va pas faire de folie. C'est ça l'idée. Et donc, si vous ne faites pas de folie, ben, vous n'allez pas acheter ce que vous auriez pu acheter. Donc, vous allez encore, de ce fait, participer au ralentissement de l'activité économique. Mais c'est un réflexe tout à fait humain, c'est l'insécurité qui produit ça. Et vous n'avez pas des gouvernements, parce que dans les 750 milliards d'euros, on n'a pas dit que vous en auriez chacun un petit morceau. On ne vous a pas dit qu'il y aura un chèque. D'ailleurs, à propos de chèque, vous savez qu'aux États-Unis, l'aide d'urgence aux familles qui avait été votée par le Congrès pour passer les premiers effets les plus immédiats du Covid, qui était de $600 une fois pour toutes à toute la vie, ne va pas être reconduite. C'est-à-dire que dans les semaines qui viennent, on va avoir des gens qui vont mourir de faim dans la rue, ou alors qui sont entre les mains de la charité publique. C'est ça qui se passe. Donc ça, c'est ce que... Bon, je ne veux pas vous annoncer ça, je ne suis pas un annonciateur de mauvaises nouvelles, mais c'est ça, la rentrée 2020, c'est ça. C'est 30 000 chez Daimler, Tesla qui ferme, etc. Et si j'ai parlé de Tesla, c'est qu'il a été confirmé ces derniers jours que le fondateur de Tesla, qui s'appelle M. Elon Musk, C'est un monsieur qui a son franc-parler, qui est originaire d'ailleurs d'Europe de l'Est, mais citoyen américain et donc fondateur de la première boîte qui ne fait que des véhicules électriques, a dit que s'il fallait faire un coup d'État en Bolivie, eh ben, rien ne l'empêcherait de le faire. Et il a reconnu en fait, c'est là-dessus que je voulais en venir, que le coup d'État du mois de novembre 2019 qui a renversé M. Morales, il était à l'origine, c'est-à-dire que les États-Unis avaient décidé d'empêcher la Bolivie d'avoir une industrie du lithium. Alors le lithium, j'explique, pour une voiture électrique, il faut un bain d'électrolyse qui fabrique de l'électricité. Vous avez tous appris ça dans vos cours de physique. Non, dit Roselyne. Bon. Et pour faire un des produits les plus classiques, pour faire les bains d'électrolyse, pour fabriquer ce courant dans les voitures électriques, c'est le lithium. Bon. Et donc le lithium, il est très inégalement réparti sur la surface de la Terre. Les gisements les plus extraordinaires en taille sont en Bolivie. Il y en a aussi en Argentine, il y en a aussi un peu au Brésil. Mais il y avait d'énormes promesses. Mais ce que le gouvernement de M. Morales voulait faire, c'était dire, OK, on a du lithium, il y a des gens qui veulent s'en servir, on n'a rien contre, mais on veut que ça appartienne, enfin qu'une partie du bénéfice de cette industrie soit entre les mains du peuple libyen et de son gouvernement, du peuple bolivien et de son gouvernement. Bon. Ce que dit M. Elon Musk, c'est que quand ils ont vu aux États-Unis que Morales voulait s'approprier les bénéfices et maîtriser l'industrie du lithium bolivien, on a décidé de le renverser, c'est tout. Et il a dit dans une interview récente, rien ne nous arrêtera quand on décide de renverser un gouvernement, on le renverse. C'est tout. Voilà. Alors à ce propos d'ailleurs pour la situation bolivienne, alors à noter dans le même ordre d'idée que le candidat, vous savez qu'il va y avoir des élections présidentielle en Bolivie, dont la date vient d'ailleurs à nouveau d'être reculée pour motif de Covid, bien entendu, que le candidat donc des putschistes, appelons-les comme ça, avait écrit à M. Musk en disant que dès que vous arriverez, vous serez le bienvenu. Hein, on va vous embrasser sur la bouche. Ah non, gardez votre masque, je vais dire. Hein, mais venez prendre notre lithium, on vous le donne. Hein, et voilà comment les États-Unis rêvent du reste de la planète. Hein, on vous donne tout, servez-vous. Et nous, on ne compte pas et on n'a rien. Merci. Merci les amis américains. Au point où j'en suis, qu'est-ce qui me restait à évoquer? Je voulais vous parler d'un personnage que vous ignorez, et après tout, vous n'en entendrez peut-être pas souvent parler, mais c'est intéressant de le faire. Voilà. Il est décédé à Leningrad, alors c'est assez marrant parce que le communiqué officiel dit « elle est morte à Leningrad », donc il n'est pas à Saint-Pétersbourg, donc c'est déjà qu'un mauvais esprit. Une dame qui s'appelle, à 82 ans, Nina Alexandrovna Andreeva. Cette dame donc était née en 1938 à Leningrad, elle avait fait des études techniques, et elle avait, au moment où Gorbatchev était dans ses opérations de perestroïka, glasnost, etc., dont vous avez tous entendu parler, publié dans un hebdomadaire soviétique, donc elle était membre du Parti communiste soviétique, un texte, donc c'était le 13 mars 1988, dont le titre était « Je ne peux pas transiger sur les principes », dans lequel elle attaquait, avec un langage modéré, en disant « mais non, là on est en train d'aller dans le mauvais sens, on est en train de, elle disait, on est en train de repasser au capitalisme, et c'est pas ce qu'on voulait ». Elle, donc, cette lettre paraît dans ce journal très officiel, la Sovietskaya Russia, et pendant en gros 5 semaines, il y a un énorme silence radio, c'est-à-dire il y a une consternation de l'appareil dirigeant du parti. Elle n'est pas dire, non, les militantes de base, elle a écrit ce qu'elle pensait, au point que le bureau politique du comité central, c'est-à-dire la quintessence du pouvoir soviétique, va s'enfermer pendant 2 jours. Pour savoir comment faire. C'est-à-dire que cette dame, tout seule, avec sa plume, ses convictions, son honnêteté de militante, dit « ça va pas, vous allez, on va dans le mur, on va de travers, on est en train d'abandonner notre économie ». Et ils en sortent, alors avec un texte qui est une attaque extrêmement violente, contre elle, donc pour dire que tous ceux qui seront d'accord avec Madame Nina Alexandrovna Andreeva sont des traîtres à la patrie. Menace à la clé, ouais, dangereux. Donc, tir de barrage extrêmement violent, donc c'est assez intéressant. Donc, vous avez une simple citoyenne militante qui dit « ça va pas, on va de travers ». Et la crise, enfin, pendant 5 semaines, la paralysie de l'appareil politique qui finit par dire « il faut absolument détruire tout ce qu'elle a dit, elle a tort ». Elle a tort parce qu'elle avait compris exactement ce qu'il voulait faire. Alors, ce qu'il voulait faire, c'était très clair, et puis maintenant on le sait, c'est-à-dire que Gorbatchev était un personnage qui était entre les mains et qui était financé par les services secrets occidentaux, et donc il avait décidé de mettre fin à l'économie socialiste. C'est tout à fait clair. Et en échange de... Alors, il avait vendu à une couche intermédiaire de gens diplômés, ayant des postes importants dans les entreprises, etc., qui... tous étaient d'ailleurs passés par les jeunesses communistes, des idées de liberté, de circulation, de voyage à l'étranger, enfin tout ça, avait touché une petite couche supérieure de la population qui a fait passer la perestroïka et le Gorbatchev. Donc je voulais rappeler ça parce que cette dame est morte, mais elle a quand même pris le soin, avant de mourir, de créer un parti, qui est le parti communiste, alors bolchevique, de toute l'Union soviétique, parce qu'elle a dit de distraire l'Union soviétique, ce n'était pas prévu. Je rappelle, ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les mois précédents la dissolution officielle par Gorbatchev de l'URSS, il y a eu un référendum organisé sur la totalité de l'Union qui a conclu au maintien de l'Union, et sur lequel les dirigeants se sont assis. Ça, évidemment, on ne le dit pas, parce que ça ne fait pas. Et surtout, depuis Tsipras, on sait que finalement, on peut faire voter les populations, et puis s'asseoir sur ce qu'elles ont voté. Voilà ce que je voulais dire sur Madame Alexandrovna Andreeva. Coup de chapeau. Et une dernière notation. Elle rappelle, enfin, l'article, un des articles posthumes concernant ce personnage, dit qu'elle était militante de base du Parti communiste soviétique. Et dans l'article, on rappelle que sur les 5 millions de membres du Parti communiste soviétique, qui étaient membres du Parti communiste soviétique pendant ce qu'on appelle la Grande Guerre patriotique, donc 1941-1945, il y en a 3 sur 5 qui sont morts, c'est-à-dire c'est pas 10%, c'est 60% des militants communistes qui sont morts pendant la guerre patriotique. Voilà, ça donne une idée de l'engagement et ça laisse comprendre que l'engagement de Madame Andreeva était un engagement, même si elle n'a pas fait la guerre, elle est née en 1938, mais c'était quelque chose de solide. Et c'est ça que, probablement, on a voulu détruire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Sidi, et puis on se retrouvera mardi prochain, à la même heure. Au revoir.